contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. 13e année, la résistance au nihilisme. Aujourd'hui, nihilisme et mort de l'homme.
Merci d'être là pour ce 272e cours. Il y en aura 275 et la contre-histoire de la philosophie sera terminée. Michel Dufresne donc, est un philosophe qui a résisté, je vous ai dit, aux modes de l'époque et qui a produit un livre qui me paraît être majeur. Et comme tous les livres majeurs, ils sont cachés ou ils existent une fois et puis ils disparaissent, ils ne sont pas repris en poche. Et ce livre qui s'appelle « Pour l'homme » de Michel Dufresne est un très grand livre. Très très grand livre parce que d'abord il est lucide sur ce qu'est le structuralisme en pleine époque du structuralisme et que le structuralisme était en train de se faire immédiatement, et donc il a compris quelles impasses théoriques, idéologiques produisaient le structuralisme. Et donc il a analysé, au moment où ses livres paraissaient, des grandes œuvres du structuralisme, et effectivement Foucault, Lacan, Althusser, Lévi-Strauss, Barthes étaient des gens qui publiaient à l'époque et qui faisaient l'actualité. C'était vraiment la mode de lire ou d'avoir dans sa bibliothèque Les mots et les choses de Michel Foucault. Les gens avaient peu lu, il y avait beaucoup de malentendus sur la question de la mort de l'homme, mais c'était les débats du moment. Et il se fait que cette philosophie, qu'aux États-Unis on a appelée la French Theory, théorie française, c'est cette théorie qui, d'une certaine manière, a conquis la planète. Or, il y a eu, je ne vais pas dire un siècle, mais au moins un bon demi-siècle de philosophie depuis le structuralisme, et le structuralisme produit toujours des effets. On va voir un petit peu avec ce livre de Michel Dufresne, et on aura deux séances pour analyser cet ouvrage, on va voir effectivement quel nihilisme tout ça a produit. Et ce nihilisme idéologique a produit des effets, bien sûr, dans la philosophie, mais hélas, dans la vie quotidienne aussi. On a organisé la disparition du réel. Le réel n'a pas eu lieu. On a fait de telle sorte que, sur nombre de terrains, le réel n'est pas lieu. Foucault donc annonce, lui, une philosophie sans sujet. Plus de perspective pratique ou pragmatique pour la philosophie, c'est-à-dire la philosophie ne pense plus le réel avenir, elle ne pense plus le futur, elle ne propose pas une analyse du passé pour saisir le présent afin de préparer le futur, pas du tout, on est dans la pure analyse historique de faits, la folie, la prison, l'enfermement par exemple, et on n'a pas de sujet, c'est pas intéressant le sujet, la folie c'est plus important que le fou. Et si on parle du fou, eh bien, le fou reste un dispositif, beaucoup plus qu'un individu ou qu'une personne. La philosophie devient donc une discipline formelle qui est plus soucieuse de style et de forme que d'idées qui soient susceptibles de changer la vie ou de produire des effets sur le réel. Même chose avec Lacan, qui n'écrit pas de livres à proprement parler, mais des articles qui finissent par être réunis, et ça donne les écrits de Lacan, tome 1 puis tome 2, et puis plus tard il y aura un autre livre qui s'appellera « Autres écrits ». Les autres ouvrages qu'on connaît de lui sont soit des ouvrages d'intervention, télévision par exemple, soit les séminaires, soit sa thèse sur la paranoïa. Mais Lacan inaugure quelque chose qui est une psychanalyse sans sujet, sans patient, sans malade également. On n'est plus là sur le divan pour se faire soigner de pathologies particulières, mais on est là pour prendre conscience de soi comme sujet, et comme sujet à l'intersection de la loi, de l'autre, de l'objet petit a, du phallus, du père, du désir, de l'autre, etc. Et on verra précisément ce que ça signifie tout à l'heure. Mort de l'homme avec Foucault, mort du patient qui souffre avec Lacan, mort du prolétaire avec Althusser, qui dans Lire le Capital considère que Marx n'est pas intéressant pour examiner et analyser les conditions de la misère et de la souffrance prolétarienne, ouvrière, de la classe ouvrière, comme on disait dans un beau mot à l'époque. Marx n'est pas là pour ça, il est là pour produire des effets de structure. Il y a des effets de structure dans Marx et dans le marxisme, et peu importe la révolution, peu importe le fait qu'on puisse vouloir changer la vie des gens qui souffrent, ce qui importe chez Marx, ce sont les structures formelles de la production. Plus besoin de se soucier des propriétaires, des bourgeois, des prolétaires, de l'exploitation ou de la misère réelle ou concrète. Avec Lévi-Strauss, c'est presque l'autre qui disparaît, l'altérité, c'est un ethnologue, c'est un anthropologue et pas un sociologue comme on le lit parfois. Il y a chez Lévi-Strauss un désir de comprendre ce qu'est l'Occident à partir d'une position qui ne serait pas l'Occident. On sent avoir des peuplades d'Amérique du Sud, et puis on va voir comment elles fonctionnent, comment elles se comportent, et on va chercher des structures éternelles, atemporelles, anhistoriques, contre l'histoire, qui fonctionneraient dans les systèmes de parenté, dans les systèmes de langage, etc. C'est-à-dire que cette anthropologie de Lévi-Strauss, en tant qu'elle est structurale, n'a plus besoin des hommes, elle n'a plus besoin d'humains. On n'est plus dans une logique de l'universel humaniste, il s'agit de faire une anthropologie qui n'est soucieuse que de schémas. C'est-à-dire, ce ne sont pas des individus qui s'épousent, qui se marient, qui font des enfants, ce sont des grands schémas qui nous permettent de savoir comment des individus se choisiraient en fonction de structures qui les commanderaient. Ces structures, évidemment, sont inconscientes. Mort également de l'auteur, avec Roland Barthes, qui, dans ses essais critiques, nous dit qu'il n'y a plus de créateur, plus d'individu qui produit une œuvre, il y a juste une œuvre qui produit un individu. C'est le lecteur qui produit l'œuvre, et pas du tout le créateur. Le créateur est un produit de la création. On inverse la perspective. Toute cette idéologie va triompher à Paris, donc en France, donc en Europe et sur le restant de la planète. Il n'y a qu'une seule source à toutes ces pensées diverses et multiples, nous dit Michel Dufresne, c'est l'anti-humanisme de Martin Heidegger. Dufresne nous dit que c'est quand même étonnant que cette annonce de la mort de l'homme ne puisse pas faire complètement l'économie de l'homme, puisque c'est toujours l'homme qui est là. Il y a une persistance de l'homme et c'est pour lui que Michel Dufresne écrit son ouvrage. Je vous rappelle, donc, pour l'homme. Il y a une invitation à considérer que l'homme n'est pas, l'homme n'est plus, qu'il a existé un temps, date de naissance, puis date de décès, je vous dirai tout à l'heure lesquels, et que cet homme étant disparu, on est dans une logique anti-humaniste, donc pas inhumaine ou inhumaniste. On est dans une logique où, effectivement, l'homme ne fait plus la loi, parce que l'homme a été une fiction, et cette fiction même a disparu. Cette philosophie, cette jeune philosophie, c'est l'expression qu'utilise Michel Dufresne pour la signifier, il nous dit qu'elle est agressive. Il parle de l'agressivité de la jeune philosophie. Il nous dit, pour démarrer son ouvrage, « Cet essai se propose d'évoquer l'anti-humanisme propre à la philosophie contemporaine et de défendre contre elle l'idée d'une philosophie qui aurait souci de l'homme. » Donc c'est vraiment quelque chose de clairement indiqué. Il y a une philosophie qui nous dit que l'homme est mort, que l'homme n'est plus, et il n'y aurait plus qu'un nihilisme généralisé. Il analyse très précisément, et on voit bien qu'il a les ouvrages sous le nez, la philosophie de l'être de Heidegger, la philosophie du concept chez Cavaillès et Grangier, l'épistémologie archéologique chez Foucault, l'épistémologie du marxisme chez Althusser, la philosophie du langage chez Wittgenstein, Saussure, Jacobson, Jemself et Roland Barthes, le règne de la structure chez Lévi-Strauss, celui de l'inconscient chez Lacan, et la philosophie de l'histoire chez les penseurs structuralistes. C'est la structure de son ouvrage, c'est d'une certaine manière le plan de son ouvrage. Il n'y a pas, nous dit-il, une philosophie, mais des philosophes qui partagent une même thématique. Donc effectivement, tout le monde se lit, et tout le monde se commente, et tout le monde s'encense. Il s'agit, nous dit Michel Dufresne, de proposer une mise à l'écart du sens vécu, et qui suppose donc la dissolution de l'homme. Mise à l'écart du sens vécu et dissolution de l'homme. Chez Michel Foucault, il y a une espèce de malentendu quand on annonce la mort de l'homme. Il n'y aurait pas, chez Michel Foucault, un homme, mais des humains. Et l'homme en tant que tel, l'individu dont on pourrait dire qu'il est l'homme, avec une majuscule, ça n'existe pas. C'est une vieille histoire. Souvenez-vous, il y a 13 ans maintenant, quand on a parlé de Diogène, cette anecdote d'un Diogène qui, dans la rue, avec une lanterne allumée en plein jour, cherche un homme, c'est de l'ironie à l'endroit de Platon. Il y a chez Platon l'homme, l'idée d'homme, l'essence de l'homme, et ce que fait Diogène avec sa lanterne, c'est de chercher cette essence qui n'existe pas. Il n'y a pas d'essence de l'homme, nous dit Diogène, il n'y a que des hommes. Et de fait, on voit bien que cette opposition entre Diogène et Platon, elle traverse les siècles jusqu'au XXe siècle. Foucault, par exemple, et Sartre. Vous allez voir, c'est le grand personnage dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est visé par la fameuse jeune philosophie qui veut tuer l'ancien dans cette aventure. Et cette opposition, elle va fonctionner pendant tout le Moyen-Âge, et elle opposera ce qu'on appelle les réalistes aux nominalistes. Et ce que fait Foucault, ça n'est jamais que réactiver cette vieille idée qu'on devrait s'opposer aux réalistes, ceux qui croient à la vérité d'un concept pur, et proposer une philosophie qui serait celle du nominalisme, c'est-à-dire nous dire l'homme est mort parce qu'il n'existe plus que des humains. Donc évidemment, les humains sont pris dans des structures. On va voir comment la prise de l'humain dans les structures fonctionne chez tel ou tel. Donc on ne peut pas parler du juif, du bon sauvage, de l'intellectuel ou du barbare, par exemple, mais il y aurait des juifs, des bons sauvages, des intellectuels, des barbares, dans des configurations particulières, qui sont des configurations historiques, certes, mais c'est une façon aussi de repenser l'histoire. C'est une configuration dont il dit qu'elle suppose des épistémés. Le concept d'homme va naître dans une épistémée particulière, c'est-à-dire une configuration historique tout à fait particulière. Alors bien sûr, il nous donne une date de naissance, il nous dit en gros l'homme en tant que tel, avec une majuscule, naît vers la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, et meurt en plein XXe siècle, très précisément en 1966, date de parution des mots et des choses. Donc il dit, il prévoit évidemment qu'on lui dira, mais alors il y a eu quand même la personne de la théologie chrétienne, il y a eu le cogito cartésien. Si l'homme n'existe pas avant le 18e, c'est quoi le sujet de Descartes qui nous dit « je doute de tout, mais je ne peux pas douter du fait que je doute, donc du simple fait que je pense, je déduis que je suis », le cogito suppose quand même un individu, suppose quand même une personne, suppose quand même l'homme. Même chose avec le sujet transcendantal kantien, celui qu'on appelle le sujet transcendantal kantien, c'est-à-dire celui dont Kant nous dit, parce qu'il postule, il nous dit que c'est un homme libre qui dispose de la possibilité de choisir, de vouloir et de décider. Même chose avec le sujet de la conscience intentionnelle, de la phénoménologie, que ce soit celle de Sartre, de Merleau-Ponty en France, ou de Searle et Heidegger, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Eh bien, Michel Dufresne nous dit « tout ça compte pour zéro » chez Michel Foucault, qui estime que ça n'a rien à voir avec l'homme. Et il faut voir comment cette configuration fonctionne à partir, nous dit-il, de la linguistique, de la biologie et de l'économie au XIXe siècle. Dufresne lui demandera pourquoi. Pas d'autres sciences. Pourquoi celle-ci et pas d'autres? C'est la proposition que fait Michel Foucault. Il analyse donc la naissance ou le fonctionnement de la linguistique ou le fonctionnement de la biologie ou le fonctionnement de l'économie, qui sont des sciences nouvelles à partir de ce moment-là. Et c'est dans cette configuration épistémique, plus qu'épistémologique, c'est dans cette configuration épistémique que va surgir un sujet particulier. Ce que Michel Dufresne montre, c'est que cette philosophie de la mort de l'homme, elle a une généalogie, ou des généalogies, une double généalogie en l'occurrence. La première, c'est Heidegger, et la deuxième, c'est le positivisme logique anglo-saxon, dont on parle assez peu à l'époque, et qu'on découvre, parce qu'il y a quelques traductions, et Dufresne nous dit, eh bien, les philosophes français découvrent ça, ils ajoutent le positivisme logique à Heidegger, alors c'est un petit peu la carpe et le lapin, comme type de mariage, mais ça produit cette idéologie de la mort de l'homme. Cette chimère, nous dit-il, Michel Dufresne, donne une philosophie qui n'a pas entièrement rompu avec la force religieuse du dogmatisme. La force religieuse du dogmatisme. C'est une critique évidemment sévère. Le dogmatisme, d'une part, depuis Kant, c'est évidemment mal porté. Et puis la force religieuse. Heidegger, nous dit-il, s'est trompé sur nombre de choses. Et là encore, c'est une façon de prendre à rebrousse-poil une époque qui, après le nazisme, et nonobstant l'engagement nazi de Heidegger, considère qu'il s'agit d'un grand philosophe indépassable. Et Dufresne dit pas du tout, c'est un philosophe, il n'est pas forcément si grand que ça, et puis de toute façon, il est dépassable, et puis il n'est pas défendable sur un certain nombre de sujets, notamment sur sa pensée de la technique. C'est une pensée courte, nous dit Michel Dufresne. C'est une pensée courte parce que Heidegger cherche le sens de la technique dans le passé, ce que fut la technique, alors qu'il faudrait chercher le sens de la technique dans ce qu'elle sera. Il n'y a pas de souci non plus chez Heidegger de l'histoire, et ça c'est une citation, pas de souci de l'histoire, mais de l'histoire de la philosophie comme historiale de l'être. Historiale de l'être. L'historiale, c'est le lieu où se fait l'histoire, où se dit l'histoire. En fait, l'histoire, elle n'existe pas en dehors de l'historien qui l'a dit. Il y a des faits, mais l'historien constitue les faits dans un récit. Eh bien, l'historiale est le lieu où se constitue l'histoire. Eh bien, il y a une histoire de l'être. L'être majuscule, on a déjà eu l'occasion d'en parler, souvenez-vous, chez Heidegger, on oppose l'être et les étants étant les objets, les choses, la réalité. Heidegger pense effectivement que l'histoire n'est pas le lieu de la réalité concrète, mais c'est le lieu de l'être. Il ne faut pas se soucier de ce qui est, mais il faut se soucier de l'être, et de l'être en tant qu'être. Ce qui définit, souvenez-vous, l'ontologie. Hein, c'était la définition que donne Aristote. L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Donc, c'est pas la science de tel objet, de tel livre, mais c'est la science du livre en tant qu'il n'a pas besoin d'être un objet livre pour être livre. Eh bien, cette ontologie-là, nous dit Michel Dufresne, elle prend toute la place et elle congédie l'histoire qui n'a plus besoin d'être là. Les étangs sont ici et maintenant dans une situation particulière et concrète. L'être est dans un monde qui n'est pas dans ce monde, dans une espèce de configuration platonicienne qui est le monde intelligible. Heidegger, qui n'a pas le souci de l'histoire, n'a pas le souci non plus de ce qui pourrait être une vérité, puisque sa philosophie est comme un poème. Et un poème, par définition, c'est inimitable et, coup de pied de l'âne de la part de Michel Dufresne, inutilisable. Donc sa pensée est courte, sa pensée est inutilisable, sa pensée est à revers de l'histoire, on ne se soucie pas de l'histoire, on nous éloigne de l'histoire. Il ne pose aucun problème véritable, nous dit Michel Dufresne, et il n'en résout aucun non plus. Et c'est le style seul de Heidegger qui peut fasciner un certain nombre de gens qui succombent à la tentation heideggerienne. Et on verra qu'il en va de même avec Michel Foucault, pensée faible, nous dit-il, mais qui peut séduire justement par son style. Sur la question de l'être, citation de Michel Dufresne, « L'être n'a point de réalité puisqu'il n'est pas étant, il n'est rien, mais ce rien est liberté et transcendance. » Si nous posons la question « qu'est-ce que l'homme ?», et il faut se la poser cette question quand on est dans la logique de la mort de l'homme, et si on se pose cette question « qu'est-ce que l'homme ?», nul besoin d'aller voir du côté de sciences qui pourraient être la biologie par exemple ou la psychologie. Heidegger pense que ça n'est pas en allant chercher du côté de la biologie, de la psychologie qu'on pourra répondre à cette question, mais il faut aller chercher du côté de l'ontologie. L'homme, nous dit Heidegger, c'est celui qui se soucie de l'être. Le souci est un mot extrêmement important dans la pensée de Heidegger. Le souci de l'être, l'oubli de l'être, ce sont des moments extrêmement importants dans cette philosophie. Il y a un être qui n'a pas besoin des étangs. Eh bien, nous avons oublié de penser l'être. Et c'est cet oubli de la pensée de l'être qui nous installe dans le nihilisme dans lequel nous sommes, toujours selon Heidegger. La vocation de l'homme, c'est donc penser l'être. Son destin, c'est d'être le lieu où l'être se recueille, nous dit-il. Comprendre l'être, c'est réactiver la question de Leibniz qui se demandait pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien. Eh bien, on ne philosophe plus, chez Heidegger, on pense. Philosopher, ça ne concerne plus que les étangs, que les objets. Donc Heidegger ne dit pas qu'il est philosophe, mais il dit qu'il est penseur. On pense l'être. Et quand on pense les étangs, on philosophe. Mais il y a évidemment une supériorité de la pensée sur la philosophie dans l'esprit de Heidegger. Il faut s'arracher aux étangs, il faut se faire, nous dit-il, c'est l'expression de Heidegger, le berger de l'être. Pour ce faire, il faut, dit Michel Dufresne, réaliser la mise à l'écart de l'étang ou du réel. On ne peut pas mieux dire qu'effectivement on n'a plus besoin du réel et qu'on ne va se soucier que d'ontologie, que d'objets irréels, immatériels et purement conceptuels. Il y a chez Heidegger, toujours selon Michel Dufresne, une fascination du vide, de point, de la présence en deçà de ce qui est présent. L'homme disparaît donc chez Heidegger au profit de l'être et de ses équivalents, le logos, le sens ou le langage. Le langage, c'est la demeure de l'être, et on va avoir droit à des paradoxes tout à fait particuliers, puisque selon Heidegger, l'homme n'invente pas le langage, il le trouve déjà là. Et c'est une question que se posait déjà Rousseau sur l'origine du langage. Est-ce que l'homme invente la langue ou est-ce qu'il porte déjà la langue ou le langage ? Faut-il apprendre la langue ou découvre-t-on la langue ? C'est extrêmement intéressant de résoudre ce problème, puisque ceux qui pensent que, comme les structuralistes, on n'a pas besoin d'apprendre la langue puisqu'elle est déjà là, peuvent produire les effets qu'ils produisent dans l'école aujourd'hui. Si on n'a pas besoin d'apprendre la langue puisque la langue est déjà là, dans des structures inconscientes, quel besoin d'apprendre la langue ? Il suffira juste d'offrir des tablettes. Où en suis-je ? L'homme n'invente pas donc le langage, il le trouve parce qu'il est déjà là. Citation, quand la question de l'homme est subordonnée à la question de l'être, il n'est plus question de l'homme, sinon comme témoin et survivant de l'être. Si l'être est là, il a pris donc toute la place et il n'y a plus d'étang, de sorte que le réel disparaît sous l'idée, le phénomène disparaît sous le concept, l'empirique disparaît sous le transcendantal, le monde disparaît sous le logos, l'homme disparaît sous l'être, nous y sommes, il n'y a rien d'autre que des concepts. Nous ne vivons que dans un monde de concepts, la philosophie peut bien s'occuper des choses concrètes, matérielles, de l'histoire, du réel, etc. Mais la philosophie est morte, ce qui est important, c'est la pensée. Il s'agit de penser l'être, il s'agit de se faire le berger de l'être, il s'agit d'en finir avec l'oubli de l'être pour avoir le souci de l'être. Ça, c'est la première racine du structuralisme selon Michel Dufresne, la première source. Deuxième source, le positivisme logique. Il nous dit « la philosophie du concept est en France aujourd'hui la nouvelle version du positivisme ». Positivisme, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, ce sont des philosophies diverses et multiples, souvent on pense à Auguste Comte au XIXe siècle, mais il y a d'autres façons d'être positiviste, et notamment avec un certain nombre de philosophes qui relèvent de ce qu'on appelle le cercle de Vienne dans les années 20, et qui sont des individus pour lesquels la métaphysique ne saurait être une science. C'est un coup de pied dans le derrière de Kant qui, lui, voulait que la métaphysique puisse se présenter comme science. Il suffisait juste de distinguer les phénomènes, les noumènes, l'empirique, le nouménal, les limites de la raison, et à partir de ce moment-là, on pouvait constituer la métaphysique comme une science, selon Kant. Selon le positivisme logique, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Les énoncés de la métaphysique sont des énoncés qui sont, en tant que tels, vides de sens. Donc c'est une destruction complète de la métaphysique. Avec ce positivisme-là, la pensée devient une superstructure intouchable, à l'abri des vicissitudes de la psychologie ou du psychologisme ou du sociologisme et de la sociologie. Il n'y a plus que des structures idéales qui sont des structures inconscientes. Les jeunes philosophes se réclament donc plus de la pensée que de la philosophie parce que, pour eux, penser, c'est se mettre à l'écoute de ce que le silence a à dire. Le penseur, dans cette logique-là, tend vers le poète. Penser nomme donc ce qui a lieu quand on philosophe sur l'être. Penser, c'est penser l'oubli de l'être. C'est donc s'abreuver aux sources antiques. Et il faut retrouver, nous dit Heidegger, pour penser la réalité, l'antiquité, et pas n'importe quelle antiquité, les présocratiques, et pas n'importe quelle présocratique, Parménide. Parménide, qui est le philosophe de l'un, de la sphère, de l'unité, contre Héraclite, qui lui est le philosophe du fleuve. Héraclite nous dit « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Parce que si vous êtes baigné dans la Dive ce matin et que vous y retournez demain matin, ce ne sera pas le même fleuve. L'eau aura coulé. C'est le même fleuve, mais ce n'est pas le même fleuve. On dit de Héraclite qu'il invente la dialectique, le mouvement, la philosophie du mouvement, et on a en face Parménide qui lui nous dit que la perfection a forme sphérique. Nulle entrée, nulle sortie, il y a une clôture sur soi-même, et Heidegger a passé une partie de son existence à penser Parménide et la philosophie de Parménide. La pensée, nous dit-il, n'est pas le produit de la conscience d'un sujet, elle est l'activité qui, sans les étangs, s'en va vers l'être qui lui-même est inatteignable. Souvenez-vous, l'être ressemble très étonnamment au dieu de la théologie négative. On ne peut rien en dire. Dès que vous en dites quelque chose, vous vous interdisez de dire le contraire, et s'interdire de dire le contraire, c'est signaler un manque, et Dieu ne peut pas connaître le manque. Pour le dire plus concrètement, si vous dites « Dieu est grand », vous ne pouvez pas dire qu'il est petit, et s'il ignore la petitesse, eh bien, il n'est pas dans les attributs de Dieu d'ignorer quelque chose. Il faudrait donc qu'il soit petit aussi, mais s'il est petit, il ignore la grandeur, etc. Donc, dès lors, il faut suspendre toute définition, la théologie négative, c'est ça, de Dieu, on ne peut rien dire, ni même qu'il est. Parce que si vous dites qu'il est, eh bien, vous ajoutez qu'il ignore donc ce que c'est n'être pas, ou ne pas être, c'est une logique effectivement infernale, et la théologie négative, quand vous l'appliquez à la question de l'être, eh bien vous voyez que vous pouvez passer votre vie à fabriquer une œuvre, et pour le coup à évincer l'histoire, le réel et la réalité. Il faut savoir évidemment que quand on s'approche de l'être, son obscurité grandit, mais il faut le faire tout de même, il faut ne pas renoncer à s'approcher de l'être, il faut aller voir à quoi il ressemble. Ce réalisme du concept disparaît, nous dit Michel Dufresne, c'est-à-dire effectivement que dans la pensée de Heidegger, il n'y a plus du tout de place pour la réalité concrète, il n'y a de vérité que dans l'historial de l'être, c'est-à-dire le lieu où la pensée de l'être peut se constituer. Foucault hérite de cette pensée-là et il annonce la mort de l'homme dans un livre assez compliqué, Les mots et les choses, avec cette dernière page de la naissance de l'homme, puis de la mort de l'homme, qui n'aura été qu'un visage effacé sur une plage. Enfin, ce sont les quelques dernières lignes de cet ouvrage-là. Pierre Dumayel l'invite à la télévision le 15 juin 1966 et évidemment il interroge Michel Foucault sur la question de la mort de l'homme. Pas facile à la télévision d'expliquer ce qu'est une épistémée, ce qu'est une structure, comment l'homme est une fabrication conceptuelle et comment ce concept surgit dans un certain type d'épistémée dont la linguistique, l'économie et la biologie peuvent rendre compte. Donc évidemment, la télévision est toujours le lieu des malentendus et elle augmente les malentendus, mais Foucault s'essaie tout de même à une explication. Dans cette émission, il y a une phrase qui est extrêmement intéressante parce que souvent c'est dans ce qui n'est pas dit que la vérité est à saisir ou à comprendre, c'est dans le diable est dans les détails, mais c'est une phrase qui concerne Jean-Paul Sartre. Et Foucault dit, Sartre, qui est un très grand philosophe, Sartre est encore un homme du XIXe siècle. Ce qui est une façon de dire, il est toujours là, Sartre, hein, toujours vivant, comme un commandeur, il est de moins en moins puissant philosophiquement, il est malade, fatigué, sa grande époque, c'est l'occupation, c'est l'être et le néant, un peu plus tard, la critique de la raison dialectique. Mais 1966, il est un peu en panne et on voit la jeune génération des philosophes qui dit « Allez, dehors, Sartre laisse un peu la place ». Et l'anti-humanisme de Foucault et de ceux qui le suivent a à voir avec l'humanisme de Sartre. Quand on attaque l'humanisme, c'est Sartre qu'on attaque. Quand on attaque le cogito, le sujet transcendantal kantien, le sujet de la conscience intentionnelle, c'est Sartre qu'on vise. Il s'agit de dire « Mettez Sartre à la porte ». Si on était dans la pure analyse marxiste, ce qu'à Dieu ne plaise, on pourrait imaginer que le structuralisme n'a jamais été qu'une machine de guerre pour évincer Sartre dans le dispositif qui est celui du champ philosophique de l'époque. La naissance de l'homme a à voir avec les conditions de possibilité de sa naissance. C'est moins important de savoir ce qu'est l'homme que de savoir dans quoi il surgit et pourquoi il surgit et comment il surgit et dans quelle configuration il surgit. C'est ce que Foucault appelle faire l'archéologie. Non pas la généalogie, disons que c'est une généalogie d'un type nietzschéen, mais chez lui ça s'appelle de l'archéologie. Cette surface, il faut la creuser. Et quand on creuse cette surface qui est une épistémée, eh bien, on fait de l'archéologie. C'est-à-dire, la généalogie de l'épistémée, ça s'appelle l'archéologie chez Foucault. C'est donc ce travail qu'il faut faire. Une généalogie, une archéologie. Et il faut découvrir, à partir de cette archéologie, les formes de savoir, c'est l'expression de Foucault, un système temporaire de concepts ou les systèmes formels. C'est ça qui rend possible le surgissement de l'homme. Le surgissement temporel et momentané. Il y a un fond de scène, d'une certaine manière, pour une représentation théâtrale. Et sur cette scène, il apparaît, à un moment précis, l'homme, qui disparaît tout aussi vite. Il faut faire une généalogie, qui est une archéologie de cette épistémée, pour savoir comment l'homme arrive, fin 18e, début 19e, et comment il disparaît, 1966, sous la plume de Michel Foucault. Il analyse, Foucault, le naturalisme de Cuvier, l'économisme, les travaux économiques de Ricardo, et les travaux de linguistique de Franz Bopp, c'est-à-dire la vie, le travail, le langage, donc les vivants, les richesses et les mots. C'est à partir de ça qu'il va essayer de voir à quoi ressemble l'épistémé. Mais Michael Dufresne nous dit, mais pourquoi ces disciplines et pas d'autres? Pourquoi pas la physique, les mathématiques, la technique, l'art, la politique? Toujours est-il que chez Foucault, l'homme est un concept parmi les concepts. Mort de l'homme, mort du sujet, mort du créateur, mort également de la philosophie. Je vous disais tout à l'heure que Heidegger souhaitait plutôt la pensée plutôt que la philosophie, plutôt penser que philosopher. Et à cette époque-là, on annonce la mort de la philosophie au nom des sciences de l'homme, de l'émergence des sciences de l'homme. Et quand j'arrive à l'université, effectivement, on nous dit, voilà, sciences de l'homme, et on enseigne, et ça faisait partie des enseignements de la philosophie, la linguistique, l'ethnologie, l'anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, qui annonce la mort de la philosophie. Foucault, évidemment, jubile de cette destruction de la philosophie. Et Pierre Dumayet pose une question extrêmement naïve, au sens premier du terme, mais extrêmement intelligente, comme toutes les questions naïves. Il dit, mais cette destruction de l'homme, quel type de politique rend-elle possible? S'il n'y a plus d'homme, la politique n'est plus possible. Et Foucault comprend bien, effectivement, que c'est la remarque majeure. Et quelques temps plus tard, Luc Ferry et Alain Renaud reprendront cette idée-là. Dans la pensée 68, ils feront l'analyse, ils reprendront l'analyse de Michel Dufresne, avec quelques interventions personnelles, mais toutes les analyses de Dufresne seront reprises et démarquées, y compris ce qui se dit à ce moment-là, c'est-à-dire, par Dumayet, c'est-à-dire, si l'homme n'existe plus, alors à quoi ça ressemble les droits de l'homme ? C'est un paradoxe qu'évidemment Foucault comprendra. Il annonce une politique à venir. Cette politique, elle ne viendra évidemment jamais. Il va être silencieux pendant 8 ans. Il publie un livre qui s'appelle La volonté de savoir en 1978, qui annonçait une série de livres qui n'auront jamais été écrits. Parce que justement, cette logique structuraliste était une impasse. Et donc, après ce long silence, peut-être personnel aussi, subjectif, etc., mais enfin, d'un point de vue de la théorie, il réapparaît pour mourir, hélas, en 1984, mourir du sida, et il corrige les épreuves de l'usage des plaisirs et d'un autre livre qui s'appelle Le souci de soi. C'est une façon de dire effectivement que le structuralisme était une impasse et qu'il faut restaurer le sujet, l'histoire, et le rôle du sujet dans l'histoire, ou le rôle moteur du sujet dans l'histoire. Michel Dufresne nous dit que s'il y a eu un succès de Michel Foucault, c'est parce qu'il y a eu un malentendu et que ce malentendu, il suppose la forme séduisante de son travail. C'est un fond intellectuellement brillant, mais, nous dit-il, vide de sens. Il nous dit que ce livre est tiraillé entre deux forces. Une première qui est la passion du système, c'est le fond du structuralisme, et puis une autre force qui est la passion tout court et qui est la forme même de l'ouvrage. C'est une espèce de nietzschéisme incandescent. Et Dufresne dit, il faudra que Michel Foucault choisisse soit cette passion du système, passion du structuralisme, soit cette passion de l'incandescence. Et de fait, l'œuvre qui suivra chez Foucault montrera qu'il renonce au structuralisme et qu'il choisira l'incandescence. Althusser, maintenant. Althusser annonce, lui, ou fait de telle sorte qu'on évince le prolétaire, le prolétariat et l'histoire. Le marxisme, a priori, c'était fait pour la classe ouvrière, pour le prolétariat, que Marx définissait d'une manière particulière. Le prolétaire, c'est celui qui ne possède pas les moyens de production, qui ne possède que sa force de travail. Le bourgeois, c'est celui qui possède les instruments de production. Et il y avait une dialectique entre les bourgeois et les prolétaires. Et il s'agissait, par le marxisme, ou via Marx, il s'agissait de renverser la perspective pour faire de telle sorte qu'il y ait une appropriation collective des moyens de production, c'est-à-dire que les prolétaires s'empare des moyens de production qui étaient entre les mains de la bourgeoisie et du capital. Tout ça disparaît. Le marxisme, ça n'est plus ça chez Althusser. La réflexion d'Althusser, nous dit Michel Dufresne, est plus cohérente, plus ferme et plus rigoureuse que celle de Michel Foucault. Althusser propose à l'époque de lire le Capital. C'est d'ailleurs le titre d'un livre qu'il consacre au livre majeur, au texte majeur de Marx, et de repenser le marxisme à la lueur du concept. Il y a une épistémée marxiste, une épistémée du capital, et on va travailler plus l'épistémée du capital. Et on voit bien comment on évince le prolétaire, comment on évince la misère, comment on évince le peuple, comment on évince l'histoire au cœur même de la centrale nucléaire marxiste. Là où le marxisme devrait penser le capital, le prolétariat, la victoire des pauvres, etc., etc., on ne travaille plus que sur les structures qui se trouvent dans les œuvres de Marx. Voilà ce que sont les intellectuels, ou ce qu'est Althusser, intellectuel majeur du Parti communiste à cette époque-là. Il s'agit désormais de chercher les structures cachées et invisibles enfouies dans le texte. Le marxisme, ça n'est donc plus une doctrine politique, c'est une épistémologie, une philosophie des sciences, si vous voulez. Hein. Citation d'Althusser, « Ce que Marx nous a donné de plus précieux au monde, la possibilité d'une connaissance scientifique. » Donc Marx n'est pas un révolutionnaire internationaliste, mais un producteur de structures relevables d'une analyse scientifique, un agenceur de signes. Le travail du philosophe marxiste, ça n'est donc plus de travailler à l'avènement de la victoire du prolétariat, mais c'est de travailler au démontage des signes pour comprendre les structures qui animent le texte de Marx. Althusser invente le concept de rupture épistémologique. Il l'invente sans l'inventer, c'est un concept qu'il y a déjà chez Bachelard, mais enfin, il lui donne un sens tout à fait particulier en nous disant qu'il s'agit désormais de séparer la science et l'idéologie. Et pour ce faire, il coupe en deux Marx, en considérant qu'il y a un jeune Marx, qui est le jeune Marx des manuscrits 1844, un Marx à cette époque-là hegelien, qui croit qu'on doit pouvoir renverser Hegel et l'hegelianisme alors qu'il faudrait rompre plutôt avec l'hegelianisme, et puis un deuxième Marx, le vrai, le seul, le bon, aux yeux d'Althusser, qui est le Marx de l'anti-humanisme structuraliste du capital. Celui-là a coupé avec Hegel et il inaugure la science. Il s'agit donc, et c'est une citation, il s'agit donc d'être plus lucidement marxiste que Marx. Il s'agit d'opposer l'objet concret et l'objet de la connaissance. L'objet réel s'efface devant l'objet de la connaissance. Les deux concepts d'Althusser sont le concret de pensée, trait d'union obligatoire, et le concret de connaissance. Le concret de pensée, c'est l'exploitation capitaliste, la misère du prolétariat, les effets concrets de la paupérisation. Ce qui est important, c'est l'objet de la connaissance, le concret de la connaissance, c'est-à-dire les objets théoriques, voire les objets théorétiques. Et le théorétique, c'est la théorie en tant qu'elle permet une contemplation. Déjà, le mot théorie procède de contemplation, mais le théorétique, c'est le plaisir qu'on a au pur concept. Ce sont les objets conceptuels qui sont intéressants chez Marx. La chose s'évanouit au profit du concept. Le prolétaire n'a donc plus aucun intérêt. Seul importe la structure du texte même de Marx. S'il y a une pratique, et de fait il y a une pratique, et chez Marx ça s'appelle la praxis, c'est la pratique qui vise l'effet induit dans le réel et dans l'histoire, eh bien cette praxis est intéressante en tant qu'elle produit des objets de connaissance. Pas du tout en tant qu'elle produit la révolution, mais en tant qu'elle produit des objets de la connaissance. De connaissance, pardon. Althusser dit « l'objet de l'histoire est le concept d'histoire lui-même ». L'objet de l'histoire est le concept d'histoire lui-même. Dufresne se demande comment, et c'est une citation, « faire la théorie du marxisme sans tenir compte de la colère prophétique qui saisit le jeune Marx à voir la misère, l'oppression, les mystifications auxquelles est soumis le prolétariat. L'expression de ce sentiment ne fait pas encore une théorie, bien sûr, mais le sentiment oriente et anime la recherche théorique, condition tout à fait insuffisante, mais pourtant nécessaire. Et corrélativement, qui s'attache à l'étude de Marx, sinon ceux qui, d'abord, s'associent à son indignation et son espérance. Y aurait-il des partis ou des pays marxistes si tout le marxisme tenait dans une science ou une épistémologie ? Et on peut comprendre les effets induits par cette décision idéologique de faire du concept une vérité qui serait l'occasion d'une religion. Il y a donc une condamnation à mort du prolétaire, ce qui paraît évident. Et je lis un extrait d'Althusser, c'est dans Lire le Capital. « La structure des rapports de production détermine des places, en italique, et des fonctions, en italique, qui sont occupées et assumées par des agents de production qui ne sont jamais que les occupants de ces places, dans la mesure où ils sont les porteurs, Träger, en allemand et entre parenthèses et en italique, de ces fonctions. Les vrais sujets, entre guillemets, au sens de sujet constituant du procès, entre parenthèses, parce que ça c'est le style d'Althusser, ne sont donc pas ses occupants, ni ses fonctionnaires, ne sont donc pas, contrairement à toutes les apparences, les évidences, entre guillemets, du donné, entre guillemets, de l'anthropologie naïve, les individus concrets, entre guillemets, les hommes réels, entre guillemets, et le reste est en italique, mais la définition et la distribution de ses places et de ses fonctions. Les vrais sujets, en italique et entre guillemets, sont donc ses définisseurs et ses distributeurs, de point les rapports de production. » Où l'on voit qu'effectivement, il n'est plus du tout question du prolétaire, mais du fonctionnement du texte en tant qu'il est porteur de structures cachées. Foucault, Althusser, Wittgenstein. Wittgenstein est un philosophe qui n'est pratiquement jamais cité par les philosophes du structuralisme, mais dont Dufresne nous dit qu'il est un personnage majeur dans cette configuration-là. Wittgenstein nous dit que le langage n'est pas un instrument, mais la pensée elle-même. Il y a plusieurs Wittgenstein, on pourrait s'entendre, il y a un logicien, et c'est plutôt le logicien dont nous allons parler, Tractatus Logico-Philosophicus, par exemple, plutôt que d'autres textes qui disent pas exactement la même chose. Il y a plusieurs Wittgenstein. Le langage de Wittgenstein, de Saussure, de Jacobson, par exemple, n'a évidemment rien à voir avec le langage réel, celui que nous utilisons, celui que j'utilise, qui, lui, est impur, quotidien et confus. Le sens est indépendant des signes, nous disent les linguistes à cette époque-là. Le signifié importe peu, seul compte le signifiant. C'est-à-dire, peu importe la chose dite, ce qui importe, c'est le mot qui dira cette chose. Le langage pense pour nous, on ne pense pas avec le langage, nous sommes pensés par le langage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le langage, mais c'est le langage qui nous veut. Donc on ne décide pas de parler, c'est la parole qui nous veut, c'est la parole qui nous requiert, c'est la parole qui nous exige. Il y a une espèce d'autonomisation de la linguistique. Et quand on renvoie au cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, on voit qu'il s'agit de séparer la langue et la parole, La parole est une réalisation contingente et maladroite, mais la langue, elle, est un système de signes. Donc peu importe la parole, peu importe ce que vous raconterez, l'important, c'est le système de signes qu'est tout langage. La parole, en tant que particulière, elle est subjective, elle est événementielle, et il faut l'écarter, et pour ce faire, se soucier de la langue qui, elle, peut être matérialisée par l'écriture phonétique. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin, d'une certaine manière, de l'orthographe. Il faut donc se soucier de l'écriture phonétique parce que c'est le code logique et symbolique avec lequel les penseurs pensent, avec lesquels les philosophes font leur travail. Il n'y a donc pas un homme qui parle, ce serait évidemment trop banal, mais il y a juste un sujet constitué par la langue. La langue, ça n'est pas moi, mais je suis créé par elle. Roman Jakobson, par exemple, dans ses essais de linguistique générale, nous dit que les mots ont une réalité vivante concrète, indépendamment de leur signification et de leur sens. Ce qui va quand même très loin. On considère donc que c'est la substance phonique qui est importante et qu'il faut l'abstraire et que seule la forme compte et importe. Le mot n'est rien en soi, il n'est que dans un rapport, dans des relations et dans des réseaux. C'est ça qui est important, c'est ce qui importe pour les structuralistes. Avec la linguistique moderne, donc, citation, « l'étude des structures de la combinatoire prévaut sur l'étude des significations ». Et on a embêté, pour rester poli, des générations d'étudiants avec cette linguistique où on disait que ce qui était important n'était pas de comprendre ce que les gens disaient, le sens n'avait aucun intérêt, mais la façon qu'avaient les mots de faire sens dans un agencement conceptuel. La syntaxe dans cette configuration-là prévaut évidemment sur la sémantique, sur le sens, et il y a une tentation nihiliste, nous dit Michel Dufresne, de la part des linguistes. La langue devient donc un objet quasi ontothéologique, ce dont nous avions parlé, c'est-à-dire un être qui serait débarrassé des étangs et qui serait à peu près de la même substance que le divin ou la divinité. Michel Dufresne nous dit que la littérature contemporaine, je vous le rappelle, on est dans les années 60, et la littérature contemporaine, elle est contaminée évidemment par cette doctrine. Donc effectivement, la critique, la linguistique, la littérature et l'art obéissent à cette théorie nouvelle. Plus besoin de l'homme, plus besoin de l'humanisme, il n'y a plus que des structures dans un anti-humanisme dominant. En art, c'est la même chose, plus question de contenu, plus question de message, mais il n'y a plus que des relations avec un contenu doctrinal. Si vous prenez l'art conceptuel, par exemple, vous pouvez même avoir une salle d'exposition dans laquelle il n'y aura rien d'exposé. Parce que ce qui importe, c'est le concept qui aura présidé à ce rien qui se trouve inexposé, si je puis me permettre l'expression. Et donc on voit bien qu'on n'a plus besoin de traces, on n'a plus besoin d'objets, on n'a plus besoin de gestes créateurs, on n'a plus besoin d'artistes, puisqu'il n'y a plus d'artistes. Il n'y a que l'art, et l'art n'a pas besoin d'artistes. L'artiste est l'instrument de l'art et non pas l'inverse. Citation de Dufresne, « Comme l'enfant joue à se faire peur, l'artiste joue à se démettre, à perdre le contrôle de son acte. » La critique inspire l'artiste et il nous dit que les romanciers même se mettent à écrire en regard de cette nouvelle doctrine. Il écrit, Dufresne, « Les structures du nouveau roman sont faites sur mesure pour l'analyse structurale. » Même chose avec d'autres œuvres d'art et effectivement le philosophe de l'esthétique qui était Michel Dufresne nous dit qu'une toile de Seurat, une production de Dop Art, une œuvre de Xenakis, compositeur contemporain, tout ça est susceptible de passer à la même moulinette. Ce qui est intéressant, ce qui est important dans l'art, c'est la forme qu'elle rend possible. Et pas du tout le message, le discours, il ne s'agit plus que de se soucier de la forme qui se trouvera dite par l'œuvre d'art, puisque la forme s'impose, et là, au service de la forme qui fonctionne comme de manière autonome, comme une structure vivante. Barthes nous dit que la vérité de la littérature n'est plus dans son message, mais dans le système structural. Il nous dit que l'étude du code dispense de l'étude du message, peu importe ce qui se trouve dit. Ce n'est pas important que la chose se soit trouvée dite comme ceci ou plutôt que comme cela, qu'il y ait tel ou tel type de message. Ce qui est important, c'est l'étude du code. Mais Michel Dufresne nous dit, Barthes écrit « Mythologie », un livre qui fait beaucoup pour sa célébrité, et « Mythologie » dit exactement le contraire. Pas soucieux du code quand il analyse l'abbé Pierre, le Tour de France, le catch, le steak frites, la bouteille de lait ou ce genre de choses, et les analyses qu'on trouve dans Mythologie de Roland Barthes, ce sont des analyses de l'étang et pas de l'être, si on veut utiliser le vocabulaire de Heidegger. Il y a une neutralisation de l'homme, de l'écrivain, de l'artiste, du sens, du créateur, et Dufresne nous dit tout ça est fort sympathique parce que ça dispense des lectures psychologisantes ou biographiques, qui sont des lectures anecdotiques, donc pas besoin d'aller chercher la psychologie de l'auteur, pas besoin de faire de la sociologie de l'auteur en disant il écrit dans tel moment, à telle époque, dans telle configuration particulière, et même si, nous dit Dufresne, il ne faut pas négliger la relation que l'auteur entretient avec son milieu, pas considérer effectivement quand on fait un tel plaidoyer pour l'histoire, je parle de Michel Dufresne, qu'on puisse faire l'économie tout de même de la psychologie et de la biographie du personnage. L'œuvre, nous dit Michel Dufresne, appelle le lecteur c'est un homme, et on voit mal comment on pourrait annoncer la mort de l'homme en s'adressant tout de même à l'homme. Et Dufresne dit il y a un paradoxe ou une aporie pour le moins dans cette façon de dire que l'homme est mort alors que c'est à l'homme qu'on s'adresse. On pourrait faire la réponse que Foucault aurait pu lui faire en lui disant que on ne s'adresse qu'à l'homme comme concept et pas du tout à l'homme comme sujet ou comme lecteur, et rentrer dans un débat un peu byzantin sur ce sujet. Après la linguistique et Wittgenstein, Michel Dufresne aborde Lévi-Strauss, qui lui, pour le coup, dilue la culture. On a dilué le prolétariat, on a dilué l'humain, on a dilué la langue et le langage. Eh bien, là, on dilue la culture parce que l'anthropologie structurale que présente Claude Lévi-Strauss, qui est parisienne et conceptuelle, elle méprise l'anthropologie américaine qui, elle, est pragmatique et concrète. Et les Américains mettent en perspective l'individu et l'histoire, ce que ne font évidemment pas les tenants de la logique structurale. L'anthropologie structurale de Lévi-Strauss critique le fonctionnalisme de Malinowski, qui lui s'appuie sur la biologie, mais même chose, pas besoin d'aller chercher la sociologie, la biologie, l'histoire, pour essayer de comprendre des structures qui, elles, procèdent d'un inconscient invisible. La culture fonctionne comme le langage, et elle procède des fameuses structures qui, elles-mêmes, procèdent de l'inconscient. Les systèmes de parenté, par exemple, ou les systèmes phonologiques, sont élaborés par l'inconscient. Et quand Claude Lévi-Strauss s'en va en Amérique du Sud, et je tiens l'information de Jean Mallory, il ne parle pas la langue de la tribu dans laquelle il passe un certain temps quand il écrit Triste Tropique. Mais pas besoin de parler la langue des gens, puisqu'on a décidé que les systèmes phonologiques relevaient d'un inconscient, et qu'il suffira juste que Claude Lévi-Strauss les trouve là où il voudra bien les trouver, c'est-à-dire pas la peine de faire le voyage. Il aurait très bien pu faire ça dans son bureau parisien. Pas besoin de sociologie, pas besoin de psychologie, pas besoin d'histoire, pas besoin d'anthropologie. Citation, la structure est l'ensemble d'entités qui ont entre elles une relation consistante, c'est-à-dire soumise à des axiomes. C'est un dogmatisme, nous dit Michel Dufresne, c'est un idéalisme, parce que le structuralisme, citation, dissout l'objet auquel il substitue un réseau de relations, il dissout le sens et il dissout l'homme. La pensée se trouve dans les choses. Lacan, pour finir, qui lui contribue aussi à ce travail de nihilisme et de dilution et de dissolution, et comme Althusser nous dit qu'il propose une lecture de Marx, une relecture de Marx, eh bien Lacan propose exactement la même chose avec Freud. Et on voit bien évidemment que la relecture qu'Althusser fait de Marx n'a pas grand-chose à voir avec Marx, de même la relecture que Lacan fait de Freud n'a pas grand-chose à voir avec Freud. Le cogito chez Lacan devient évidemment l'opaque, l'impensé. Le sujet transcendantal kantien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on dilue totalement l'idée que vous pourriez avoir un inconscient personnel. Quand vous arrivez sur un divan chez Lacan, si tant est que vous ayez le temps de vous asseoir, parce que parfois les analyses duraient 3 minutes, et ça coûtait très cher, c'était des billets de 500 francs à l'époque pour 3 minutes, et on n'a pas besoin de raconter l'histoire d'un inconscient personnel, puisque ce sont des structures qui surgissent, et que cette structure, elle va permettre à Lacan de tenir un discours qui va devenir de plus en plus un sabir auquel personne ne comprendra rien, mais il s'agira juste de s'en servir pour impressionner avec les concepts qui sont les grands concepts lacaniens, puisqu'il y a un ouvrage qui a été publié, qui doit s'appeler, je suis plus très sûr du chiffre, mais enfin les 376 néologismes de Jacques Lacan. Si vous avez publié autant de néologismes, c'est-à-dire que vous avez inventé une langue pour vous tout seul, c'est une pathologie mentale en temps normal, hein. Ça s'appelle de la glossolalie. Mais donc ces concepts rendent possible l'accès évidemment aux structures. Pour Lacan, dans la logique de la linguistique, et voilà pourquoi chez Lacan l'inconscient est structuré comme un langage, puisque le langage est structuré comme un inconscient, on se mord la queue, si je puis me permettre la chose sans être interprété et placé sur le divan, mais la parole constitue le sujet, et la parole c'est l'inconscient, donc le patient n'a plus aucun intérêt, la souffrance du patient ne présente aucun intérêt. La souffrance du prolétariat était le souci de Marx, le souci d'Althusser, c'est le fonctionnement des structures dans le Capital. La souffrance du patient présentait un intérêt chez Freud, pourvu qu'il soit riche et payant liquide, mais chez Lacan, la souffrance du patient ne présente aucun intérêt. Lacan refuse, citation, que la cure soit, comme pour la psychanalyse américaine, de remettre l'individu en communication avec la collectivité où il s'aliène et de le rallier au conformisme régnant. Il s'agit, nous dit Dufresne, parlant de Lacan, que le sujet découvre sa vérité. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est faire rentrer l'homme qu'on a fait sortir par la porte, le faire rentrer par la fenêtre, ou l'inverse, puisque découvrir la vérité du sujet, c'est découvrir ce qui est humain en l'homme. Comment peut-on proposer cette chose et dire qu'il en va de la structure comme d'une vérité absolue et de l'homme comme d'une fiction totale ? Lacan dévitalise lui aussi le réel au profit d'idoles majuscules qui, elles aussi, fonctionnent de manière autonome. Et en dehors de l'histoire, une fois de plus, ces idoles fonctionnent toutes seules. Les idoles de Lacan, et vous apprenez les 10 mots et vous jonglez avec tout ça et vous serez lacanien, la langue, le langage, la parole, la loi, l'ordre, le phallus, le désir, l'autre, le signifiant, le signifié, la métonymie, l'objet petit a, la métaphore, des concepts auxquels les gens de bon sens ont du mal à trouver un sens, mais qui vous permettront de passer pour une femme savante, même si vous êtes un homme. Dufresne nous dit qu'on ne peut prendre l'homme au sérieux que si l'on prend d'abord au sérieux le réel. Le langage, nous dit Lacan, n'a pas besoin d'être appris puisqu'il est déjà là, et Michel Dufresne nous dit l'inverse. Il nous dit, mais si on n'apprend pas la langue ne nous apprend pas, la langue ne surgit pas. Donc si on est obligé d'apprendre la langue, c'est qu'elle suppose la conscience et que la conscience, elle restitue le sujet. Du simple fait que nous soyons des sujets parlants suppose une conscience, un apprentissage, et donc l'homme. On ne peut pas faire l'économie de l'homme en ce sens. Le langage devient désir, mais évidemment, vous mettez des majuscules et à chaque fois, le désir n'est pas désir. Le phallus n'est pas phallus. Si vous pensez que le phallus, il est charnel, vous vous trompez. C'est un phallus de papier, c'est un phallus conceptuel. Le phallus, c'est l'autre nom de la loi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un mot que vous croyez le comprendre, vous vous trompez. Si vous parlez du désir et que vous pensez que le désir, c'est une libido qui vous habite, qui se trouve dans votre corps, vous vous trompez parce que ça n'est pas le désir organique. Le désir, c'est d'abord le désir de l'autre. Si vous pensez aussi bêtement que l'autre, c'est l'autre, vous avez tort. L'autre n'est pas l'autre. L'autre, il est le psychanalyste en tant qu'il est visé par le transfert. C'est-à-dire la construction que vous allez faire vous-même d'un individu que vous allez aimer ou détester de par sa fonction de psychanalyste. Si vous dites bêtement « je désire l'autre », on dit « bah oui, ça se voit ». On a parfois des moments qui nous permettent de comprendre pourquoi et on se dit « désir organique d'un individu pour un autre personnage », pas du tout. Si vous dites chez Lacan qu'il y a le désir de l'autre, c'est que vous dites effectivement que vous avez l'envie, mais qui n'est pas une envie libidinale et organique, mais que vous avez l'envie d'accéder à celui qui est manque, puisque le propre du psychanalyste en tant qu'il est un objet de transfert, c'est d'être inexistant. Voilà pourquoi le désir est manque. Vous avez compris ? On n'est pas obligé de comprendre, hein, mais enfin, je veux dire, le désir de l'autre chez Lacan, ça n'est pas un désir organique parce que l'autre n'existe pas non plus. Donc nous n'avons jamais qu'un accès à un autre qui lui n'est jamais que le psychanalyste en tant qu'il est fantasmé comme objet de transfert. Et bien donc vous désirez quelque chose qui n'existe pas et comme ce quelque chose n'existe pas, vous êtes dans le manque. Le désir est toujours le manque. Donc quand on dit le désir c'est le manque, c'est pas du tout ce qu'on croit habituellement parce qu'à chaque fois que vous pensez croire quelque chose, que vous pensez comprendre quelque chose, vous vous trompez. Le désir n'est jamais le désir, l'autre n'est jamais l'autre, le père n'est jamais le père, la loi n'est jamais la loi, etc. Voilà pourquoi c'est une langue à part, qu'on peut l'apprendre, et voilà pourquoi vous avez des Lacaniens qui, à une époque, étaient extrêmement brillants. Tout le monde se disait, ils sont brillants, je comprends pas, mais ils sont brillants. Et quelques-uns à l'époque, François Roustang un petit peu plus tard, mais François-Georges le premier, dans un livre qui s'appelait « L'effet tuyau de poil », a fait un excellent livre dans lequel il dit « Arrêtez, quoi, ça ne fonctionne pas, le lacanisme, c'est une imposture ». Mais à l'époque, c'était pris très au sérieux. Le signifiant suprême, c'est évidemment le phallus. Là encore, n'imaginez pas que le phallus il soit charnel, corporel, etc. Il est un pur concept. Et le phallus, c'est le signe du père, c'est le signe de la loi, c'est le signe du droit. Mais même chose, ne pensez pas que le père, c'est le père, hein, évidemment. Donc voyez comment toutes ces choses-là fonctionnent. Concept à l'état pur, disparition de la réalité, le désir n'est pas le désir, l'autre n'est pas l'autre, le phallus n'est pas le phallus. Tout ce que vous pourriez croire comprendre, eh bien vous vous trompez en croyant le comprendre. Donc effectivement, disparition totale du réel et nihilisme intégral. Conclusion. Il s'agit évidemment pour tous ces gens-là d'effacer l'histoire, de négliger ou de contester l'histoire, de refuser le réel. Ça produit des effets. J'ai quelques citations, mais on est un petit peu en retard. C'est-à-dire chez Derrida, par exemple, ou chez Foucault, ou chez Lévi-Strauss, qui nous permettent de voir effectivement que l'histoire n'est pas intéressante ou importante. Derrida, par exemple, écrit dans L'origine de la géométrie, l'histoire empirique ne se distingue pas essentiellement d'une non-histoire. Ça veut dire que si vous faites l'histoire du réel, eh bien, c'est une non-histoire. Ça n'est pas une histoire. Le réel n'a évidemment pas eu lieu. Foucault nous dit dans Les mots et les choses, le langage ne se modifie pas tellement avec les migrations, le commerce et les guerres, au gré de ce qui arrive à l'homme ou à la fantaisie de ce qu'il peut inventer, mais sous des conditions qui appartiennent en propre aux formes phonétiques, grammaticales dont il est constitué. Pour le dire autrement, si vous avez un afflux massif de Normands, d'Italiens, d'Espagnols, d'Arabes, etc., pendant un certain nombre d'années en France, eh bien vous avez des mots qui apparaissent. Et on peut imaginer effectivement que ce sont des gens qui, venant de l'étranger, arrivent avec leurs mots, et ce sont des mots que nous acclimatons. Eh bien, pas du tout. Il y a un ordre de la langue qui n'a rien à voir avec l'histoire. Si les mots sont là, c'est qu'ils évoluent en fonction de leur propre existence. Il y a une autonomie absolument intrinsèque des mots qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Donc avec les mouvements des peuples, avec les mouvements des foules, avec les invasions, avec les effondrements de civilisations, avec toutes ces choses-là. Lévi-Strauss, qui dans l'anthropologie structurale nous dit « il y a une structure inconsciente sous-jacente à chaque institution ou à chaque coutume, etc. etc. » On pourrait multiplier les exemples. Michel Dufresne nous dit, et ce sera la conclusion de ma conclusion, « primat du concept, réalité du système et de la structure qui le constitue, antériorité du discours sur l'expérience, insignifiance du vécu, irréalité du sujet, point de suspension, c'est donc tout ça qui constitue le structuralisme. » On voit bien qu'il n'est pas question pour Michel Dufresne de souscrire à ce nihilisme-là, et pour l'homme est constitué de deux parties, je vous ai proposé l'analyse de la première partie, c'est-à-dire critique du structuralisme, et la séance suivante sera consacrée à la positivité, c'est-à-dire le sens du titre lui-même, pour l'homme, et Michel Dufresne nous proposera la fondation d'un nouvel humanisme, et il me semble que finir ces 13 années par la question de la fondation d'un nouvel humanisme, ça n'est pas une mauvaise idée. Je vous remercie. Donc, pour l'homme, ouvrage qui n'a pas été réédité, ceci dit, qu'on trouve pour pas très cher sur Internet, c'est bien la preuve que on ne le lit pas ou qu'on ne le lit plus, qu'on n'a pas d'intérêt pour cet ouvrage-là. Les ouvrages dont nous avons parlé, Les mots et les choses, donc, de Michel Foucault, sous-titré Une archéologie des sciences humaines. Et puis, un livre intéressant parce qu'il est fait, mais pas seulement, il est publié par les presses universitaires de Caen et l'IMEC. Et le titre est « Les mots et les choses » de Michel Foucault, « Regard critique 1966-1968 ». C'est-à-dire que ce sont les textes qui sont associés à l'apparition de cet ouvrage, les recensions critiques, et c'est intéressant de voir comment le livre a été reçu à cette époque-là. Louis Althusser et Étienne Balibar, « Lire le Capital », tome 1, tome 2, petite collection Maspero. C'est des choses qui étaient obligatoires quand j'étais étudiant à Caen. Et il y a eu, à l'époque, un livre consacré à Althusser de son vivant, par Jean-Pierre Cotten, qui a été mon professeur à l'Université de Caen, « La pensée de Louis Althusser » aux éditions Privas. Althusser est mort après avoir étranglé sa femme, et il n'y a plus beaucoup d'Althusseriens aujourd'hui, sauf Bernard-Henri Lévy. Ah non, mais il s'en réclame encore. Hein. Peut-être pour l'étranglement, je ne sais pas. Jacques Lacan, écrit 1, écrit 2, de Claude Lévi-Strauss, les œuvres en Pléiade, et puis cet objet obligatoire pour les étudiants à l'époque, cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Voilà pour la bibliographie.
C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, France Bleu Basse Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Demain, aura du perçu.